Chers frères et sœurs, convenons que la Bible recèle des trésors d'exotisme. Et ce passage, bien entendu, en fait partie. Ce passage qui décrit la construction de l'autel, qui est la pièce centrale du culte hébreu, puisque c'est sur l'autel que les sacrifices sont offerts à Dieu, et ce sont les sacrifices qui occupent la place centrale du culte israélite. Alors nous sommes dans un même de demander pourquoi ce genre de texte a été conservé dans la Bible, ce recueil de textes qui font autorité pour notre foi. Ce genre de texte, je n'ose même pas demander qui en avait connaissance. Et je ne le ferai pas, je vous assure. N'est-ce qu'une survivance d'un âge révolu, qui laisserait du coup entendre que la Bible elle-même n'est qu'un document archéologique, intéressant, mais qui finalement n'a pas grand-chose à dire de notre quotidien, n'a pas grand-chose à nous révéler aujourd'hui. Tout juste un document capable de nous dire ce qu'était la religion il y a un peu plus de 20 siècles, incapable de nous aider à vivre aujourd'hui. La Bible recèle des trésors d'exotisme qui sont pourtant, et c'est là aussi le cœur de notre foi, des ressources encore utiles pour aujourd'hui. Alors, chers catéchumènes, je m'adresse tout spécialement à vous, avec une formule un peu rhétorique, car je n'entends pas que vous me répondiez, avec un texte comme ça, comment on se débrouille? Que faire de ce genre de texte? Sinon, considérer que cela dit à quel point le christianisme est un vieux truc qui ne nous concerne pas. Eh bien, un bon remède à ces textes qui nous semblent d'un autre âge et qui nous semblent muets, c'est de faire preuve de curiosité. La curiosité est une excellente qualité. La curiosité est certainement l'une des plus grandes qualités des croyants d'ailleurs. Et il est toujours précieux d'encourager la curiosité. Alors, la curiosité peut consister à prendre au sérieux le texte tout d'abord et à s'intéresser à ce qu'il y a de plus curieux dans le texte. Si vous avez essayé de retenir un peu quelles étaient les différentes prescriptions, quelle est la chose la plus curieuse que vous ayez retenue de ce texte-là? Ce n'est plus une question rhétorique. Y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement étonné? Quelque chose qui n'a pas tout à fait sa place dans un texte biblique? Non, pour vous, tout est à fait normal. C'est un texte biblique, donc c'est sacré, on n'y touche pas. Rien ne doit nous émouvoir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'indication sur laquelle il faut faire des cornes à chaque point de l'autel. Chose que nous n'avons pas sur notre table de communion. Je dis, vous noterez, nous n'avons pas non plus les anneaux qui permettraient de passer des barres, qui permettraient de transporter la table de communion. Soyez en rassure. Pourquoi donc construire des cornes aux quatre points de l'autel? C'est certainement la chose la plus étonnante que nous indique ce texte. Mettre une grille sur l'autel, c'est assez normal si on se souvient qu'après tout, il s'agit de faire les grillades. Alors, en faisant preuve d'un peu de curiosité, nous ne gardons pas le nez fixé sur ce texte biblique, mais nous allons parcourir quelques autres textes bibliques où il est justement en question de cet autel, et question des cornes de l'autel. Et du coup, il suffit de se rendre dans le premier livre des rois, par exemple, au tout premier chapitre. Nous sommes dans une période de succession. Qui sera le successeur du roi David? Il y a Adonia, l'un des fils de David, qui a quelques prétentions pour accéder au trône. Et comme il croit en son destin, il a même organisé des festivités, et il s'est en quelque sorte auto-proclamé roi d'Israël. Ce qui a été plutôt confirmé par celles et ceux qui étaient présents. Mais Bethsabée, l'épouse de David, avait convenu avec David, justement, que ce serait Salomon, leur fils, qui devrait, en principe, accéder au trône. Et du coup, Bethsabée entreprend de renverser la vapeur, s'arrange pour que cela se réalise, et effectivement, avec le concours du prophète Nathan, l'onction royale sera administrée à Salomon. Adonia, qui avait eu quelques velléités et s'était auto-proclamé roi, a donc commis un crime de lèse-majesté. Et c'est à une époque où on ne rigole pas avec les crimes de lèse-majesté. Que fait Adonia? Eh bien, lui qui a dû atteindre la vengeance de Salomon, dans la mesure où il tient à la vie, le texte biblique nous dit qu'il se lève et qu'il va saisir les cornes de l'autel. Premier livre des Rois, chapitre 1, verset 50. Et le texte biblique continue le récit de cette manière, je cite, « On fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adonia, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. » Autrement dit, les cornes de l'autel ne servent pas seulement à attacher les victimes qui seront sacrifiées. Elles ont aussi un rôle en matière de justice. Dans le cas où un individu a mal agi, il pourra saisir l'une des cornes de l'autel pour éviter que la vengeance s'exerce sur lui immédiatement. Et là, on retrouve un peu cette règle qui fonctionne dans la plupart des cours d'école, lorsqu'on joue à chat. Il y a toujours un lieu qui est la maison. Et quand on est dans ce lieu-là, on dit « maison » et on ne peut pas se faire attraper par l'équipe adverse. Et bien ici, les Hébreux ne crient pas « maison », ils touchent les cornes de l'autel dans la maison de l'Éternel. Le temple était donc aussi un lieu pour se réfugier lorsqu'on craignait pour sa vie. Un lieu où régnait une forme d'immunité, du moins temporaire. Ce n'est pas un lieu qui mettait fin à un processus de justice, c'est un lieu qui mettait fin à un processus de vengeance. Dans la société hébraïque que nous décrit la Bible, les mauvais comportements entraînaient souvent des gestes de vengeance. Et saisir les cornes de l'autel était un moyen d'échapper à ce que la Bible nomme le vengeur de sang. Nous en trouvons un exemple dans le livre du Deutéronome. Il y avait des pieds refuges et la possibilité aussi de saisir les cornes de l'autel pour mettre fin à cette mécanique de la vengeance. Autrement dit, les cornes de l'autel, aussi exotiques soient-elles, ont une fonction qui, elle, est très pratique. Interrompre le cercle vicieux de la vengeance. Et du coup, la maison de l'Éternel, le temple, devient un lieu où le coupable peut retrouver refuge, asile, et échapper à la vindicte populaire. Saisir les cornes de l'autel peut même avoir une sorte de fonction de soupape d'échappement. Je m'explique. Parce que le désir irrépressible de se venger va être interrompu, alors on fait baisser la pression, on fait baisser le niveau de violence. Alors bien évidemment, nous pouvons avoir une conception de la justice qui consiste à punir les coupables rapidement, implacablement, voire les châtier, si nous voulons aussi exprimer la satisfaction que certains ressentent à ce qu'un coupable soit puni et bien puni pour le mal qu'il a fait. Mais pensons au moment qui précède une arrestation, surtout lorsque d'importants moyens sont déployés. Cela devient une traque. À supposer qu'un délinquant est poursuivi, il devient tel une bête traquée. Et que fait une bête traquée? Elle se métamorphose. Elle se métamorphose en bête sauvage, capable de devenir criminelle. Plus il aura le sentiment d'être pris au piège, et plus le désir de vengeance sera fort chez ceux qui le poursuivent, plus le délinquant, l'infracteur, sera poussé à être de plus en plus violent. Saisir les cordes de l'hôtel, offrir un asile, offrir une immunité temporaire, c'est un moyen d'enrayer l'escalade de la violence et de faire baisser la pression, manière d'éviter un plus grand drame. Force est de constater que nous n'avons pas sur notre table de communion ces cornes qu'indique le livre de l'Exode, mais cette fonction d'interruption de la vengeance, il serait précieux que nous puissions l'incarner néanmoins. Il serait précieux que nous soyons en mesure, en tant que communauté ecclésiale, de pouvoir enrayer les mécanismes de violence collective. Ces cercles vicieux de la violence dont René Girard a parlé en parlant de violence mimétique. Ces mouvements de foule qui ajoutent de la violence à la violence. Et qu'est-ce que la vengeance? La vengeance, nous l'avons eue sous nos yeux encore ces jours-ci. Quelqu'un subit une violence et nous considérons que le moins que nous puissions faire, c'est de renvoyer une violence au moins aussi égale à ceux qui en ont été à l'origine. Pour ne pas tourner autour du pot, si des policiers ont exercé une violence sur un individu, des gens qui se sentent solidaires de cet individu peuvent avoir envie de retourner cette violence contre l'ensemble des policiers et, a fortiori, de ce qu'ils représentent. Les cornes de l'hôtel permettent d'interrompre ce cercle vicieux de la vengeance et de la violence, qui consiste à ajouter de la violence à la violence. Autrement dit, à répondre à ce que nous exécrons, la violence, par ce que nous exécrons, la violence. C'est-à-dire nous mettre dans une situation où nous sommes en désaccord profond avec nous-mêmes. Il serait bon en tant qu'Église, c'est-à-dire en tant que communauté tenant lieu de Dieu, nous soyons en mesure de dédramatiser les situations conflictuelles, les situations qui vont aussi, les situations délétères. Il peut y avoir des violences qui sont des violences verbales, et nous en connaissons aussi, notamment en cette période où une campagne électorale est propice à la violence verbale. Pour une part, le secret professionnel auquel sont tenus les ecclésiastiques, aussi appelé secret de la confession, est-il une manière d'offrir une soupape d'échappement à celles et ceux qui pourraient bien exploser lorsqu'ils se sont pris au piège? Et il y a bien des pièges dans lesquels nous pouvons avoir le sentiment d'être prisonniers. Mais plus largement, il me semble que ce serait précieux que les Églises puissent participer à l'œuvre salutaire qui consiste à faire baisser le degré de violence, ce qui est déjà une manière de rendre notre société plus vivable. Certes, nous n'avons plus de cornes sur notre table de communion, qui n'est d'ailleurs pas un autel, puisque nous n'y faisons pas de sacrifice. Mais la fonction d'interruption de la vengeance et de la violence, elle, demeure en tant qu'exigence. Et il serait précieux que nous en fassions quelque chose. Alors, saisir les cornes de l'autel dans l'Israël biblique n'était pas une garantie d'échapper à la sanction ni à la mort. Toujours dans le livre des Rois, au chapitre suivant, Joab, un personnage assez connu, s'enfuit en direction de la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel lui aussi. Et pourtant, Salomon ordonnera qu'on le frappe à mort. Chapitre 2, versets 28 à 31. L'autel nous avons un peu du mal à nous figurer ce qu'il peut bien signifier. Mais au fond, l'autel n'est pas très différent de ce que nous en faisons de nos jours. Je m'explique. L'autel est autrefois destiné à tuer l'animal qui allait être sacrifié à Dieu. Et bien sûr, nous avons en tête que le sacrifice, c'est une manière pour ces cultes un peu archaïques d'offrir à la divinité ce qui lui permettra d'apaiser sa colère, ou son courroux, pour employer un terme le plus noble. Alors, on tuait un animal, on le brûlait entièrement ou en partie. Parfois, c'était des offrandes végétales qui étaient offertes. Et d'ailleurs, je vous rends attentif au fait que les offrandes végétales sont d'une bien plus grande noblesse dans le système des sacrifices du Lévitique. Les sacrifices ont lieu quand les torts ont été réparés, après les guérisons, en fait. Si nous sommes attentifs à ce que nous dit le livre du Lévitique, ce ne sont pas les sacrifices qui permettent de réparer la relation brisée entre Dieu et les hommes. C'est parce que la relation a été restaurée qu'un sacrifice est possible. Et alors, il s'agit bel et bien d'organiser un repas, c'est-à-dire quelque chose de convivial, un rite de commensalité. Autrement dit, on ne sacrifie pas pour se réconcilier avec Dieu, c'est parce qu'on est réconcilié avec Dieu qu'on sacrifie. Et voyez comme la chose est bien différente. Autrement dit, nous pouvons considérer que ce que nous faisons de cette table de communion, la célébration de la scène, est assez fidèle et cohérent avec cette prescription du livre du Lévitique. Nous pouvons envisager les sacrifices comme des repas, comme des moments de convivialité qui, évidemment, ne cherchent pas d'abord à nourrir, comme s'il était nécessaire de nourrir Dieu avec de la viande ou des légumes, mais à vivre quelque chose ensemble. Un sacrifice, c'est un repas avec la divinité qui a une fonction symbolique. Elle dit que nous sommes familiers avec la divinité, elle dit notre proximité avec Dieu. Je reviens maintenant à la question de la vengeance et de la justice. Lorsque nous sommes dans une situation d'injustice et que nous saisissons les corps de l'autel, que faisons-nous? Nous intégrons la dimension divine dans une affaire de violence. Nous injectons du divin dans une affaire d'injustice. Et cela signifie que la situation souvent colorée de ce désir de vengeance sera inévitablement colorée aussi de ce que Dieu attend de nous en matière de justice. Autrement dit, c'est une sorte de frein à notre désir de vengeance. En nous souvenant que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive, pour citer le prophète Ézéchiel au chapitre 18. En nous souvenant que Dieu crée un monde vivable par la parole, et pas par ses mains, ou par des outils ou des armes, en nous souvenant que Dieu crée un monde vivable par la parole, c'est ce que nous apprend le premier chapitre du livre de la Genèse. Alors nous pouvons réaliser que saisir les cornes de l'autel, c'est passer du stade de l'émotion qui conduit facilement à la vengeance au stade de la parole. La parole qui peut conduire à la communion. Vous allez me dire, passer du stade de la vengeance au stade de la communion, c'est quand même un peu idéaliste cette affaire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est idéaliste. Et bien sûr qu'il faut avoir des idéaux. Des idéaux importants. Parce que c'est à condition d'avoir un idéal que nous pouvons ensuite conformer nos choix, nos actions, nos décisions sur cet idéal. Plutôt que sur notre désir du moment, sur notre émotion soudaine, sur le désir de notre propre nature, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul. La communion peut sembler un idéal inatteignable lorsque nous sommes face à un délinquant, face à un criminel, face à un infracteur de manière générale. C'est en tout cas l'idéal qui peut orienter notre manière de concevoir la justice. C'est l'idéal qui peut nous faire réaliser qu'il est préférable de laisser de côté la colère. Je ne vous dis pas que la colère soit illégitime parfois. Mais la colère ne peut nous conduire qu'à une violence supérieure. Et de faire place à la raison, c'est-à-dire à la parole, le logos. Pouvoir parler un peu plutôt que simplement avoir des gestes d'opposition. C'est en libérant la parole, en faisant droit à la parole, en permettant à chacun de s'exprimer avec des mots et pas des actions. Ce que nous appelons en matière de justice un débat contradictoire, en fait, le dialogue. Eh bien, c'est à cette condition que nous pouvons faire preuve d'humanité. Saisir les plans de l'autel, c'est essayer de passer d'une logique de l'affrontement, celle de la vengeance, à une logique de communion qui est celle du dialogue. Un autel, ça sert à cela. Et quand on veut brûler quelque chose, c'est pour créer la communion, c'est pour préparer un repas. Pas pour habiter le matériel du repas. Et c'est aussi cela. La mission de notre Église, je crois. Être une communauté capable de former et de reformer en tout lieu et en tout temps le temple même de Dieu, où des cornes sont disponibles. Permettre d'injecter de la raison dans ce qui n'est plus que passion. Permettre un peu de médiation entre les personnes et les groupes qui s'affrontent au lieu de chercher à se comprendre. Une communauté ecclésiale, largement au-delà de son temple, de son église, de son bâtiment de référence, pourrait être un lieu où les infracteurs seront toujours les bienvenus. Une zone, non pas de non-droit, mais une zone pour remettre du droit et de la justice, de la parole. Oui, une communauté ecclésiale pourrait être un lieu où les délinquants, les infracteurs seront toujours les bienvenus. Non pour leur offrir une immunité permanente. Non pour effacer ce qu'ils ont fait, mais pour temporiser la violence des agresseurs et pour atténuer la violence dont les victimes sont elles aussi capables. Parce que l'injustice ne nous laisse jamais indifférents. Une communauté ecclésiale pourrait être un lieu qui interrompt la mécanique implacable de la violence en remettant un peu d'humanité dans la sauvagerie où nous sommes malheureusement tous capables. Et pour une part, il me semble que ce texte, loin d'être vieillot finalement, nous dit que l'activité religieuse pourrait consister à offrir les moyens d'une justice qui restaure chacun dans son droit, dans sa dignité, et dans sa capacité à présenter un visage humain, dans sa capacité à interrompre le cycle de la violence et de la vengeance. Amen.